time, it is time. Let's leave no one behind.
Let's leave no one behind, signé Native Africa Band. Ne laissons personne derrière. Tout le monde doit être engagé justement pour cette planète-là idéale avec ce message sur le développement durable. Native Africa Band était sur la scène d'Africa Abidjan Capital du Jazz qui continue, hein, voilà, qui se tient jusqu'au 9 mars prochain. Restez sur Radio de la Paix et à 7h ce sera César Yao que vous entendrez pour le journal.
Radio de la Paix, il est 7h. Le journal de 7h, César Yao.
Bonjour à tous, les faits saillants de l'actualité de ce mardi 7h. Les urnes du RHDP se préparent déjà pour les futures échéances électorales. Ils ont récemment tenu à Abidjan un séminaire de réflexion pour garantir la victoire de leur parti à la présidentielle de 2025. Notation financière des pays, la Côte d'Ivoire passe de bas 3, perspective positive, à bas 2, avec perspective stable selon l'agence Moody's. Une note qui démontre que le pays est crédible et le risque de solvabilité est supportable, nous expliquera Faustin Ozon, économiste et expert en intelligence économique. Dans l'actualité internationale au Tchad, le Premier ministre Succès Massra annonce une enquête de type international sur la mort de l'opposant Yaya Dilo. Aussi, Poutine passera en revue les titres des journaux ivoiriens du jour. Et puis en fin d'édition, Jean-Claude Comé recevra Dr Germain Cramo, enseignant en économie et chercheur à la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, dans le cadre de l'invité de la rédaction pour parler de performance et perspectives macroéconomiques du continent africain. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous, la jeunesse du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a organisé un séminaire autour du thème « Quelle stratégie de remobilisation des jeunes du RHDP du 1er au 3 mars 2024 à l'INJS, c'est à Makori. Comment travailler efficacement sur le terrain pour garantir une victoire écrasante du RHDP et de son président Alassane Ouattara lors des prochaines joutes électorales 2025 » l'un des points majeurs de cette rencontre. On en parle avec Jean-Mélène Biti.
La jeunesse du RHDP ne veut plus laisser le terrain jusqu'à la victoire finale de son mentor en 2025, Koné Mamadou.
Ce séminaire a le fait de réfléchir et d'adopter les règlements intérieurs de la jeunesse du parti, de valider la feuille de route des délégués et de la matrice d'action. Alors, c'est un moment important pour nous de réfléchir en tant que jeunes afin de garantir une victoire écrasante à notre parti dès le premier tour en 2025. Après le séminaire, nous aurons les tournées sur le plan national. Mais nous, en tant que président de la jeunesse du RHDP, il nous faut quand même élaborer une stratégie à l'endroit des jeunes.
Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, par ailleurs porte-parole du RHDP, Touré Mamadou a, au nom du directoire, mis en mission la jeunesse du parti.
L'objectif, il est clair, faire élire le président Alassane Ouattara au premier tour en 2027. Monsieur le président, au nom de la direction du parti, je voudrais vous fixer l'objectif. L'objectif, c'est d'enrôler 1 million de nouveaux majeurs sur la liste électorale. En vue de consolider l'avancée du RHDP sur la liste électorale.
Environ 350 délégués départementaux venus de toute la Côte d'Ivoire ont pris part à cette rencontre et ont marqué leur indéfectible soutien au président Alassane Ouattara dans une motion.
Autre chose, dans ce journal, plus de 600 interventions ont été réalisées par les pompiers civils de Lifou en 2023, affirmé le chef de cantonnement Ibrahima Souri Doumouya lors de la 34e journée mondiale de la protection civile, commémorée le vendredi 1er mars dernier au chef-lieu de région d'Aoukro. Le point avec notre correspondant sur place, François Kra.
Le chef du centre de la protection civile de l'IFO, Ibrahima Sori Doumia, revient sur l'importance du thème à l'ordre du jour.
Nous, en tant qu'hommes de terrain, savions l'importance des technologies innovantes. Aujourd'hui, les téléphones nous permettent d'alerter les pompiers en cas d'urgence. Nous avons des drones pour les reconnaissances et recherches en milieu hostile ou périlleux. Les portatifs pour la coordination des interventions et plein d'autres appareils au service de la protection civile pour les aider à sauver des vies.
Le bilan des interventions enregistrées l'an dernier en dit plus.
Pour l'année 2023, le centre de protection civile de l'IFO a enregistré 642 interventions qui ont fait au total 669 victimes. Et malheureusement, nous déplorons 17 cas de décès. Notons que les accidents de circulation dominent avec 306 cas de nos sorties qui font environ 48% de nos interventions.
Pour le préfet de Wolé, Sourou Sana, un soutien multiforme aux soldats du feu les rendra encore plus opérationnels.
Je pense que chacun de nous n'est pas à l'abri d'un sinistre, d'une catastrophe. Donc il s'agit d'être regardant vis-à-vis du centre de protection sociale. Chacun selon ses moyens peut apporter sa petite pierre à l'édifice sans forcément attendre d'occuper une fonction publique.
Des démonstrations en matière des gestes de premier secours pour éviter des incendies dans l'usage du gaz de cuisine et des accidents de la circulation ont été présentées à l'assistance. François Kra, Daokro, Radio de la Paix.
Et nous restons toujours dans les régions ivoiriennes. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière a procédé samedi dernier à Bouaké au lancement de la campagne mondiale sur la sécurité routière pour la zone Afrique. Il a souligné que les accidents de la circulation ont un impact négatif de 7% sur le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. On en parle avec Joseph Fassalé, notre correspondant régional dans le Bec.
En sa qualité de maire de Bouaké, le ministre des Transports se félicite du choix de sa localité pour abriter le lancement de la campagne mondiale de la sécurité routière pour la zone Afrique. Amadou Koné en donne la raison.
Je suis très heureux que le message soit lancé à partir d'une ville qui enregistre en moyenne un tué tous les deux jours sur la route, généralement des utilisateurs de drogue.
Au plan national, les chiffres sont également effarants.
Les statistiques indiquent que plus de 60% des décès sur nos routes en Côte d'Ivoire sont des utilisateurs de deux, de trois roues et des piétons. En 2022, nous avons enregistré en Côte d'Ivoire un peu plus de 1500 tués. Sur les 1500 tués, 1000 tués en Côte d'Ivoire en 2022 qui étaient des utilisateurs de deux roues, trois roues et des piétons. Ça fait globalement un peu plus de deux tués tous les jours sur les routes en Côte d'Ivoire.
Cela n'est pas sans conséquence au plan économique, indique Jean Dodds, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé de la sécurité routière.
Ces accidents ont un coût économique considérable, environ 7% du PIB de la Côte d'Ivoire, selon la Banque mondiale.
En marge de cette campagne sur la sécurité routière, des élèves ont été formés, des casques ont été remis à 300 détenteurs d'engins à deux roues et des documents sur la sécurité routière ont été offerts au système éducatif. Joseph Assalé, Bouaké, Radio de la Paix.
Notation financière des pays africains à présent. Depuis le 1er mars 2024, l'agence Moody's a rehaussé la note de la Côte d'Ivoire de BA3 perspective positive à BA2 avec perspective stable. Cette note positionne le pays comme le deuxième meilleur crédit de l'Afrique subsaharienne derrière le Botswana et aux côtés de l'Afrique du Sud. C'est notamment ce qui ressort d'un communiqué publié dimanche dernier par le ministère ivoirien des Finances et du Budget, alors que comprendre par la note BA2 avec perspective stable là-dessus, les explications de Faustin Ozon, économiste et expert en intelligence économique.
Vous savez que ces dernières années, notre pays est sur le marché financier. Et lorsqu'on est sur le marché financier, c'est bien évidemment pour pouvoir s'endetter et réaliser nos objectifs publics en matière de développement. Et donc, ces structures-là sont bel et bien informées. Ce sont elles qui, généralement, nous donnent une note. Et c'est à partir de cette note-là que notre pays peut s'avérer crédible ou pas.
Alors, parlons précisément de cette notation de l'agence Moody's. disent de BA3 à BA2. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement?
Alors, de BA3, quand on part à BA2, cela signifie par exemple que les obligations ne sont pas aussi vulnérables que ça à court terme, mais peuvent quand même faire l'objet d'une incertitude un peu dans le long terme, surtout quand certaines conditions économiques et financières et même commerciales ne sont pas réunies. Mais il y a une chose qu'il faut peut-être vous rappeler, c'est que une santé financière est véritablement exceptionnelle quand on est dans le triple A, par exemple. Et le triple A, il y a 11 pays, je crois, dans le monde qui sont notés triple A, dont 8 sur le continent européen, par exemple. Alors, lorsqu'on va dans B, vous allez voir aussi que là-bas aussi, le risque d'insolvabilité est faible, mais peut être affecté, si on y prend garde. C'est ce que ça signifie. On est dans un risque d'insolvabilité qu'on peut supporter.
Voilà, c'était Faustin Ozon, économiste et expert en intelligence économique. Il était en ligne avec Jean-Claude Comé. À l'initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, il a été mis en place des groupements de défense sanitaire dans les filières, dans la filière des ruminants là-bas, San Pedro, et les éleveurs de la cité balnéaire ont été formés au notion de base sur la reconnaissance des maladies animales. Des détails avec Benson Kofi, c'est notre correspondant dans le Bassa-Sandra.
Apporter une réponse aux risques sanitaires dans les élevages implique renforcer les capacités des éleveurs, selon Dongo Ami, représentante de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
L'émergence ces dernières années des épizooties telles que la fièvre aphteuse, la COVID-19, a mis en évidence l'insuffisance de la maîtrise des risques sanitaires dans la plupart des élevages. C'est pourquoi la FAO et l'USAID se tiennent aux côtés de la direction des services vétérinaires pour mettre en place des groupements de défense sanitaire afin de contribuer à l'amélioration de l'état sanitaire de nos différents cheptels.
Le formateur docteur vétérinaire Nguessan à son volontaire, former les éleveurs, c'est assurer une sécurité des animaux mais également des hommes.
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est très dépendante de l'importation des pays voisins comme le Mali et le Burkina. Et je pense que c'est le moment de nous pencher sur la question de l'élevage. Nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de maladies et les éleveurs ne maîtrisent pas tous les contours de l'élevage. Raison pour laquelle nous venons les constituer en groupement de défense sanitaire. Leur rôle principal, c'est d'observer les signes et symptômes qu'il y a dans les élevages et les notifier aux vétérinaires privés.
Une formation bien appréciée par les éleveurs avec le témoignage de leur président, Dramera Amoy.
Pour rentrer même dans un frame, il faut te protéger d'abord avant de rentrer. On est dans un Afrique, on ne calcule pas tout ça là. Il y a des animaux, on prend dans la camion des abattoirs, on s'en va chez nous, on dépose. C'est malade, il n'est pas maladie, on s'en fout. Une semaine après, il est tombé malade. Et puis aujourd'hui, on connaît ça. Donc ça nous donne beaucoup de conseils.
Ces éleveurs formés auront pour mission d'être des relais au plan local. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Dans l'actualité internationale, au Tchad, 5 jours après la mort par balle de l'opposant Yahya Diallo lors de l'assaut du siège de son parti par l'armée, le premier ministre succès Masra a annoncé hier lundi soir qu'il y aura une enquête de type international pour situer les responsabilités. Le chef de gouvernement tchadien a également qualifié de regrettable la mort de Yahya Diallo et a présenté ses condoléances à sa famille, mais aussi aux familles des militaires tués dans cette affaire. À présent, la revue des titres des journaux ivoiriens avec Aoussi Potin, c'est toujours dans le temps, n'est-ce pas, d'un déguerpissement, n'est-ce pas, Potin?
Tout à fait, César Yao, bonjour à vous et bonjour à toutes et à tous. Comme l'indiquait donc César Yao, nos quotidiens, en tout cas, parus ce jour, certains de nos quotidiens parus ce jour, en tout cas, s'intéressent toujours donc à ces opérations de déguerpissement et de démolition dans le district autonome d'Abidjan. Et donc, tandis que, par exemple, hein, le tabloïd Le Temps parle de déguerpissement sauvage à Abidjan et indique que le ministre gouverneur Cissé Bakongo est sommé de s'expliquer et que le nouveau réveil affiche à sa une, et nous le citons, déguerpissement. Voici ce qui fait trembler le pouvoir RHDP. Le patriote parle, lui, d'un mal nécessaire et se projette dans l'après-déguerpissement et démolition en soulignant comment Abidjan suit la trajectoire de Paris, la plus belle ville du monde. Au cœur de ces opérations, car adulé ou décrié, eh bien, Bakongo est très confiant, nous apprend le quotidien Le Rassemblement qui rapporte à sa une un extrait des propos du ministre gouverneur, qui rapporte donc à sa une un extrait des propos du ministre gouverneur écrit. Déguerpissement, Bas-Congo très confiant. Les sites déguerpis seront aménagés. Je suis en paix avec moi-même. Alors, autre sujet aussi à lire, une des journaux parus ce jour. Donc, nous avons le quotidien Fraternité Matin qui nous propose un reportage sur le lycée mythique du côté de Sassandra. Un reportage assez intéressant avec le titre suivant à lire donc à la une de Fraternité Matin. Reportage Sassandra, la descente aux enfers du mythique lycée. Et puis, terminons avec, bien sûr, l'ouverture de la 18e conférence de l'UPSI à Abidjan, donc ouverture officielle qui a eu lieu hier, avec le quotidien Soir Info, qui, titrant sur le sujet, souligne que la guerre israélo-palestinienne a cristallisé les débats donc lors de cette ouverture de la 18e conférence de l'UPSI, et que le président donc en exercice, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Big Togo, a pris fonction à la tête de l'organisation et appelle un cessez-le-feu immédiat.
Voilà, à l'instant, la revue des titres des journaux ivoiriens avec Kaossi Potin qui sera de retour à 8h pour la même cause. À présent, l'invité de la rédaction, croissance économique dans le monde, l'Afrique domine le classement des 20 pays à la croissance la plus forte en 2024. C'est notamment ce qui ressort d'un rapport de la Banque africaine de développement, rapport intitulé « Performance et perspectives macroéconomique du continent africain ». Bien, pour en parler, Jean-Claude Comé reçoit dans le cadre de l'invité de la rédaction Dr Germain Cramo, enseignant en économie et chercheur à la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, le centre ivoirien de recherche économique et sociale. Entretien donc.
Dr Germain Cramo, bonjour.
Oui, bonjour, M. Comé.
Le rapport de la Banque africaine de développement, la BAD, rapport intitulé « Performance et perspectives macroéconomiques de l'Afrique », indique qu'en 2024, 11 des 20 pays ayant la croissance économique la plus forte du monde sont africains. Comment vous réagissez à cette information?
Déjà, c'est une bonne information à prendre parce que la santé d'une économie est mesurée généralement par le taux de croissance de ses économies, mais présenter ce résultat de cette manière peut laisser cacher cette réalité. Et comme je l'ai dit, pour les pays développés, réaliser déjà un taux de croissance d'1%, de 2%, constitue déjà une performance assez importante. Donc, on pourrait comparer les pays sous-développés entre eux. Ça aurait été donné encore plus d'importance à cette comparaison. Mais comparé à l'ensemble des pays du monde, on peut se flatter, mais ça peut cacher aussi des réalités.
Justement, la croissance se calcule comment? Quels sont les éléments qu'on met en avant pour évaluer la croissance d'un pays?
Pour évaluer la croissance d'un pays, on regarde la quantité de biens, de richesses produites dans ce pays et on compare cette quantité de produits durant cette année à l'année qui précède. Donc, par exemple, on nous présente ici le taux de croissance en 2024. Donc, ce sont des prévisions de croissance en 2024. Donc, on se dit qu'en 2024, le pays va produire telle quantité de richesses. Et comparativement à l'année qui est passée, le pays a augmenté sa richesse qu'elle produit. Donc, ce qui dit qu'il y a une croissance. Mais il peut arriver que le pays produit moins que l'année précédente et là, le taux de croissance peut être négatif.
Certaines économistes estiment qu'au-delà de ces chiffres macroéconomiques, il faut qu'une réelle perception en ramenant donc cette richesse projetée pour un pays à la capacité réelle des populations à voir dans leur quotidien les fruits de cette richesse. Est-ce que vous avez la même lecture par rapport à la présentation globale de ces résultats macroéconomiques?
Effectivement, cette manière de regarder ces chiffres tient du fait que le but final de cette richesse qu'on crée, c'est d'améliorer le bien-être. Donc, il est mieux de lier cette richesse qui est créée à l'amélioration des bien-être des populations. Donc, effectivement, donc, il y a de plus en plus demandé que cette richesse qui est créée soit liée à la performance au niveau de l'amélioration des bien-être des populations. Parce que des pays peuvent réaliser des taux de croissance élevés, mais en termes de richesse créée par personne, on verra que la performance n'est pas aussi au rendez-vous. Par exemple, les pays peuvent réaliser des taux de croissance assez élevés, mais au niveau de cet indice comme le développement humain, les questions d'éducation et de santé, les pays peuvent être moins bien classés. Ce qui fait qu'il est toujours important de ramener cette création de richesse-là pour voir quel est son effet, son impact sur le bien-être des populations.
En nous intéressant aux projections de l'année 2024 en ce qui concerne les résultats macroéconomiques, des pays comme le Niger avec 11,2% en 2024, le Sénégal 8,2%, 7,5%, la Libye 7,9%, le Rwanda 7,2% et la Côte d'Ivoire en cinquième position 6,8%, pour ne citer que ces cinq pays. Déjà, quel commentaire cela vous inspire, hein?
Dans ces pays pauvres, il y a beaucoup à faire. Donc, ce qui fait que lorsqu'on réalise certains investissements, cela permet d'avoir un effet plus important sur le PIB, ce qui fait que le taux de croissance sera plus important. Quand on prend le cas du Niger, on lie cette forte hausse du PIB à la découverte et à l'exploitation du pétrole. Donc, ce qui va faire que la vente de ce pétrole va permettre d'augmenter significativement la richesse créée dans ce pays. Donc voici plus ou moins ce qui explique cette forte croissance. Effectivement, parce que dans ces pays, il y a beaucoup à faire. Et lorsque ces pays mènent en œuvre des politiques assez cohérentes et efficaces, cela réagit sur la croissance du PIB.
Donc, de manière globale, hein, on dit que la croissance du produit intérieur brut, le PIB donc réel du continent, devrait s'établit en moyenne à 3,8% cette année et 4,2% en 2025. C'est le signe aussi, hein, de la performance du continent africain, on peut le traduire ainsi?
Oui, effectivement, comme on le dit, le continent, il y a beaucoup de défis à relever. Donc déjà, arriver à réaliser ces taux de croissance, c'est déjà important, mais on peut aller même au-delà. Quand on voit les défis qu'on a à réaliser, les infrastructures que nous devons réaliser sur ce continent, on peut même aller au-delà de ce taux de croissance. Donc si l'Afrique veut sortir de la pauvreté et arriver à améliorer significativement les conditions de vie de ces populations, il va falloir qu'on réalise des taux de croissance encore plus élevés que cela et sur une longue période pour que cela puisse être ressenti par les populations.
Alors, mais est-ce qu'il y a une explication particulière de ce regain économique, hein, noté sur le continent depuis quelques années quand même? Aujourd'hui, l'Afrique intéresse le monde entier. Est-ce une renaissance économique du continent?
On ne parlera pas de renaissance, mais je dirais plutôt on essaie de conforter les performances que nous avons réalisées depuis quelques années, même si la COVID est venue plus ou moins freiner ces efforts. Mais ces taux de croissance traduisent plus ou moins la volonté de ces pays-là d'aller vers plus d'amélioration des conditions de vie de la population. Malheureusement, il y a de plus en plus de situations de crise qui reviennent sur le continent, alors que ces situations-là ont contribué à plomber la croissance sur le continent. Donc nous espérons qu'il y aura moins que des crises sur le continent, afin que ces pays puissent réaliser des taux de croissance encore plus élevés.
Pour terminer, comment maintenir le cap, hein?
Il faudrait que nous poursuivions les efforts pour maintenir déjà ces taux de croissance. Les pays doivent continuer les différentes réformes et les investissements afin de pouvoir garder ce cap de croissance économique. Et comme je l'ai dit aussi, cela dépend fortement aussi de la situation au niveau de l'économie mondiale.
Docteur Germain Cramo, je vous remercie.
Merci, monsieur Comé.
Voilà, Jean-Claude Comé était avec Dr Germain Cramo, enseignant en économie et chercheur à la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale. C'était dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui referme les pages de ce journal, le rappel de l'essentiel. Les unes du RHDP se préparent déjà pour les futures échéances électorales. Ils ont récemment tenu à Abidjan un séminaire de réflexion pour garantir, n'est-ce pas, la victoire de leur parti à la présidentielle de 2025. Notation financière des pays. La Côte d'Ivoire passe de BA3 perspective positive à BA2 avec perspective stable selon l'agence Moody's. Une note qui démontre que le pays est crédible et le risque de solvabilité est supportable. Vous avez entendu les explications de Faustin Ozon, économiste et expert en intelligence économique. Enfin, dans l'actualité internationale au Tchad, le Premier ministre Succès Masra annonce une enquête de type international sur la mort de l'opposant Yaya Dillo. Fin de cette première édition de l'actualité sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous à 8h.
Radio de la Paix.
À Bouna, 102.8 MHz. Baba bien, on a aimé, mais mon amour, t'y es mon mado.